Il est le maire démissionnaire donc de l'arrondissement Plateau Mont-Royal, Luc Farandaise. Bonjour.
Bonjour Monsieur Drainville.
J'ai dit dans ma chronique avec Paul Arcand ce matin que vous étiez le premier à avoir prouvé qu'on pouvait gagner avec un authentique programme écologique radical.
Oui, puis je vous remercie de le reconnaître parce que je pense que c'est une de mes réalisations principales d'avoir changé le ton en politique, ou une bonne partie du temps en politique municipale à travers le Québec et à travers le monde, c'est du service à la clientèle. Donc, puis il y avait une politicienne américaine qui avait dit il y a deux choses dont il ne faut jamais parler quand on est un politicien municipal, ce sont les chiens et les voitures. Et parce qu'on est au service à la clientèle, on ne doit pas faire de contraintes, on ne doit pas tenter de trop changer les choses, on doit bien servir le citoyen. Et moi, j'ai tenté au contraire de faire des contraintes j'ai rendu la vie difficile à certaines personnes.
Mais j'allais dire, maintenant que vous êtes plus en politique, est-ce que vous reconnaissez que vous avez mis en œuvre un programme anti-auto, anti-automobiliste?
Oui, mais léger. À New York, le maire de Blasio, le 30 avril, a adopté la taxe sur la congestion. Une voiture va payer $12 américains pour rentrer au centre-ville de New York et un camion $25. À Londres, c'est le cas depuis de plusieurs années, on en est loin. Je veux dire, on est quand même allé
coin de
rue.
Mais c'est ce que vous souhaiteriez, vous?
Moi, j'aurais préféré agir de cette façon-là, beaucoup plus radical, beaucoup plus rapide. Mais on agit coin de rue par coin de rue, puis c'était pas mauvais non plus, parce que ça nous permettait, en même temps, de transformer ces coins de rue-là. On les a verdis, c'était pas juste une question de circulation, il y avait une question de quartier à visage humain.
Mais est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, moi, je veux que ça change vite, il y a urgence, et donc... Je le fais pour, je l'espère, une majorité qui va voter pour moi puis éventuellement me réélire. Mais c'est certain qu'il y a une minorité qui va payer pour mon programme. Puis, regarde, c'est ça la vie.
Oui, mais en fait, c'est même pire que ce que vous dites. C'est que moi, je pensais que c'était une majorité qui allait payer puis que j'allais pas être réélu. Je me disais, ça fait 50 ans qu'on prend des mauvaises décisions dans un sens. Je peux bien en prendre des mauvaises dans l'autre. Et pendant 4 ans. Et ça m'importait peu de...
Des mauvaises politiquement, mais selon vos valeurs à vous, c'était des bonnes.
Des bonnes, oui. Non, mais même si je m'étais trompé, en étant trop radical, en retirant trop de stationnement ou en imposant trop de congestion, je considère que c'était pas une erreur au regard de l'histoire, compte tenu du fait qu'on est allé tellement loin dans l'autre direction. Et il fallait rétablir la ville. Quand je suis arrivé il y a 10 ans sur le plateau Mont-Royal, le printemps, là, Les chars montés qui faisaient des starts sur les coins des rues, puis les bars jusqu'à 3 heures du matin, les gens qui n'arrivaient pas à dormir à côté, il y avait ça aussi. Là.
Mais il n'y a pas moyen, Luc Ferrandez, je veux vous ramener là, à aujourd'hui, il n'y a pas moyen, à votre avis, d'introduire puis de mettre en place une société beaucoup plus écologiste puis une politique beaucoup plus écologiste sans brusquer, sans heurter, sans mettre le monde en maudit, ou enfin sans mettre une partie de la population en maudit?
Mais non, non et non. Je suis persuadé que si c'était possible, on ne serait pas rendu dans la situation dans laquelle on est.
Donc, il faut faire chier le monde pour être environnementaliste, pour avoir une politique environnementaliste?
Chier, c'est un peu fort. Il faut contraindre. Il faut, si on n'arrive pas, dans les prochaines années, à réduire l'espace que nous occupons dans nos maisons, à réduire la climatisation que nous utilisons, à réduire le chauffage de nos piscines, à réduire le nombre de nos voyages, à réduire notre consommation de viande, à réduire ce qu'on achète au quotidien en produits électroniques puis qu'on recycle pas. Si on n'arrive pas à faire ça dans quelques années, on s'en va direct dans le mur. Or, on n'y arrive pas. C'est un truc, la consommation, le confort, ce sont des trucs, ce sont des tendances hyper lourdes qui viennent là, de siècles avant nous.
Donc, il faut l'imposer. Ça prend une classe politique qui le rentre dans la gorge du peuple.
Ça prend un tyran progressiste.
Vous êtes sérieux?
Oui.
Ça prend un tyran progressiste. Donc, vous seriez à l'aise avec, on suspend la règle démocratique, il n'y a plus d'élection pendant un certain temps, on est pour avoir des tyrans écologistes, c'est le prix à payer. On met en place une autocratie, une dictature éclairée, des leaders écolos à la Ferrandaise, puis on met de côté la démocratie.
Pas en 2019.
Mais
2030. On s'en va là.
On suspend les élections en 2030?
Non, mais...
Pour sauver la planète? Mais, je suis sérieux, Luc Ferrandez.
Monsieur Rainville, on a perdu de 12 à 20 % de nos terres agricoles en 2019. Avec 1,1 % de réchauffement de la... 1,1 degré de réchauffement de la planète. On s'en va vers 1...
Pas pour une année, là. Vous voulez dire...
Avec 1,1 degré d'augmentation.
Oui, regarde, non, mais vous parlez des terres agricoles. Là, on n'a pas perdu 20% des terres
agricoles. Dans les dernières années. D'ailleurs, là, c'est lié au prix à l'augmentation des prix alimentaires là, qui est en hausse partout dans le monde. Si on se rend à 2 degrés, là, ben entre 1,5 et 2 degrés, là, on va être à 40% de perte des terres agricoles.
À cause des sécheresses et tout le reste?
Sécheresses, inondations, etc. Et ça, c'est aussi aux États-Unis, là, ce qu'on appelle le « dry belt », c'est les terres qui sont presque inutilisables tout au sud des Grands Lacs. La Californie avec
d'ailleurs,
des
ça veut dire que les Américains, à un moment donné, vont venir nous demander si on ne veut pas nous forcer à partager notre eau.
Oui, absolument. Puis on est chanceux, nous, on en a beaucoup de terres agricoles inutilisées, là, puis qui sont en friche.
Oui.
En 2030, là, c'est dans 12 ans, 2030. Hein, je me rappelle quand on parlait de 2030, avant, on disait « Ah, dans l'an 2000, dans 2000 ». 2030, c'est dans 12 ans, là. Puis, si les pronostics du GIEC, qui est le groupe international d'évaluation de l'environnement et du climat, si leurs pronostics sont vrais, en 2030, on est vraiment, vraiment, vraiment dans une situation critique.
Fait que vous allez revenir en politique en 2030?
Bien, malheureusement...
Habillé, revêtu de vos habits de tyran éclairé.
Oui, c'est ça. Ça sera pas tellement le fun en 2030, là, tu sais. Alors,
okay, vous êtes convaincu qu'on va vivre l'enfer en 2030?
Ben, écoute, c'est une hypothèse forte. Puis, moi, j'y crois. Pour mon plus grand malheur, d'ailleurs, j'y crois. Puis, j'espère que ça ne se produira pas comme ça. C'est arrivé qu'on se trompe. Même les grands, grands experts se trompent parfois. J'espère qu'ils se trompent. Mais ça se peut qu'on s'en aille par là. Et regardez avec les inondations, là. Deux fois des inondations qui sont prévues aux 100 ans, qui se sont produites. Une fois en 2017, une fois en 2019. Aux États-Unis, les pires inondations de l'histoire des États-Unis qui se sont produites sur deux années de distance. Quand on met tous ces faits-là ensemble, la guerre en Syrie, c'est une guerre de l'eau, hein. En Syrie, là, c'est 1,5 million d'agriculteurs qui n'avaient plus d'eau sur leur territoire qui sont venus se tamponner autour de Damas dans des bidonvilles qui sont restés là pendant 10 ans, puis à un moment donné, le feu a pogné. Mais ça, c'est tous des événements séparés les uns des autres, puis à un moment donné, tu les mets ensemble, puis tu dis, ben, peut-être que ça va pas bien. Sauf que, pour revenir à votre question de base, de 2009 à 2019, non seulement j'ai pas été un tyran éclairé, j'étais un démocrate acclamé. Élu avec des pourcentages de plus en plus élevés.
Non, c'est vrai.
Donc, j'étais loin d'être un tyran éclairé. Le tyran dont je parle, c'est peut-être le genre de leader qu'on aura besoin en 2030. Puis peut-être que moi,
mais il arrivera au pouvoir comment, celui-là? Là, visiblement, vous y avez réfléchi. Là. Il arrive au pouvoir comment, là?
Ah, mais je pense que la population va réclamer des gens qui vont prendre des actions fortes.
Comme celle que vous évoquez dans votre statut Facebook, là, dans votre lettre de démission, là?
Oui.
Sur l'espace de 10 lignes, vous avez le mot « taxer » 6 fois. Taxer le stationnement, taxer l'accès au centre-ville, taxer les investissements étrangers, taxer les déchets, taxer les vols aériens, taxer la viande, réintroduire les tarifs douaniers.
Oui, tout ça.
C'est ça votre programme?
Oui,
c'est ça. Le monde qui vous écoute va trouver ça vraiment trippant.
Ben oui, évidemment, le monde qui m'écoute va être un peu surpris. Mais pour faire quoi avec cet argent-là? Pour racheter des maisons en terrain inondable? Regardez, la Sainte-Marthe, on va reconstruire la digue. Là. Est-ce qu'on se rend compte que quand on construit une digue, on envoie l'eau juste le kilomètre après? Parce que là, elle va monter à cet endroit-là. Mais là où il n'y a pas de digue, elle ne monte pas. Là, elle rentre dans les terres. Les digues, c'est pas une solution. Là. Et les villes qui vivent sur le bord de l'eau depuis plus longtemps que nous, là, comme Amsterdam, par exemple, les villes des Pays-Bas, ils ont des digues, ils ont énormément de digues. Oui. Mais ils essaient de plus en plus de les enlever. Ils essaient d'en enlever là où ils peuvent pour laisser à l'eau regagner le territoire qu'elle avait auparavant.
Créer des milieux humides.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, là.
Mais vous êtes catastrophiste. Vous pensez, le monde qui nous écoute actuellement, Luc Ferrandez, là, de deux choses l'une. Ou bien ils sont profondément déprimés, ou bien ils vous trouvent tellement déprimants qu'ils ont déjà changé de poste. Sérieux? Non, mais je me pose la question. Est-ce qu'on peut amener les citoyens à changer quand on est à ce point noir dans la façon avec laquelle on envisage l'avenir? Parce que moi, je vais dire, si c'est ça l'avenir, la tentation peut être forte chez certains de dire, ben garde que l'iorbe l'emporte.
Ben,
je veux dire, je ne ferai plus d'efforts. De toute façon, on va tous mourir. Nos enfants ne feront plus d'enfants. C'est ça que vous avez dit. Votre gars, votre garçon fait partie de la génération qui va choisir de ne plus avoir d'enfants. C'est ça que vous avez dit?
Oui, c'est ça que j'ai dit.
Ouais. Écoute, c'est-tu assez déprimant, ça?
C'est pas drôle. Ouais, on ne peut pas me classer dans la catégorie fun. Ça, c'est certain. Mais regardez Harvey Med. Harvey Med, là, c'est l'écologiste qui a accompagné les gouvernements québécois pendant des années. C'est notre plus grand écologiste des années 80-90. Lui a dit, OK, j'abandonne tout, les gens ne comprennent pas, on s'en va vers l'effondrement. Là. C'est pas moi qui le dis. Là. Ça, c'est le plus grand écologiste québécois. Il a écrit deux livres sur la question. Si tous ces gens-là ont raison, là, ça risque de pas être drôle en 2030, 2040.
Fait que dans le fond, vous partez pour mieux revenir. Vous partez, parce que vous dites, là, de toute façon, je peux pas faire les changements radicaux que je veux faire, je peux pas les faire avec Valérie Plante puis l'équipe qui est en place présentement. Fait que j'aime mieux m'en aller. Puis comme ça, je serai pas associé à leur mièvrerie, à leur mesure, à leur demi-mesure, à leur programme pas suffisamment ambitieux. Je me décolle de ça. Je préserve ma virginité politique et idéologique. Puis dans 10 ans, ils vont avoir besoin de moi. Je vais revenir.
Bon alors. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très amical. Puis je n'ai que des amis dans ce groupe-là. Alors,
non, ça, je ne vous crois pas.
Non, c'est vrai, j'ai beaucoup de... Sur une base personnelle,
oui.
Là, je m'entends avec tout le monde, puis je reconnais le
Il paraît même que vous êtes drôle des fois en TV.
ça se pourrait. Mais Valérie, en plus, tu sais, Valérie, on sait jamais... on n'a jamais... terminer une conversation sans se prendre dans les bras l'un de l'autre.
Parce c'est vrai ça?
Ben oui, parce que je reconnais...
Mais vous êtes engueulé, là, c'est solide, on s'entend.
C'est clair. Mais Valérie, c'est elle qui a sorti Projet Montréal de la marge. On était un parti qui n'aurait jamais été élu, notamment avec un leader comme moi. On n'aurait jamais pris le pouvoir. C'est elle qui est allée chercher.
Alors, mais vous faites le pari que dans 10 ans, ils vont pouvoir être élus avec un leader comme vous dans 10 ans.
Ça, c'est l'autre rectification que je voulais faire. Dans 10 ans, il n'y a rien qui va moins me tenter que de revenir en politique. Je serais tellement mieux dans un chalet sur le bord d'un lac. Ce que je vous dis, c'est peut-être que dans 10 ans, on va avoir besoin de politiciens comme moi. Si j'espère que ce ne sera pas moi. J'espère que ça va être d'autres politiciens de mon style, mais que ce ne sera pas moi, parce que ça ne me tentera pas de revenir.
Pourquoi ça ne vous tentera pas? Vous
parce
savez
que
pas
va ça? Une ça va être une catastrophe. Ça va être des moments difficiles.
Ça va être dur à gérer, vous voulez
oui,
dire?
Ben oui,
ben à
oui.
Parce que les décisions... vont être très, très, très durs à prendre et à faire mettre en œuvre parce que le monde va dire ça se peut pas les sacrifices que vous nous demandez. Là,
exactement.
C'est ça?
Il y a un bon analyste français qui a dit on a deux choix. Soit on se dirige vers une société où on va de toute manière souffrir parce que le pétrole va être en diminution, l'agriculture va être en diminution, il va y avoir un flux constant de migrants qui vont vouloir rentrer dans les pays développés parce que ça va être encore pire dans leur pays, etc. Ou alors, on va mettre en place des mesures pour éviter ça qui vont être aussi pires que la solution. Avec le genre de mesures que je cite. Où on va se tarifier...
Des mesures aussi pires que la situation. Oui,
que la situation, oui. Des mesures qui vont dire, ben, pour pas que ça arrive, il faut qu'on arrête de consommer, il faut qu'on arrête de voyager, il faut qu'on arrête de manger ci, il faut qu'on arrête de manger... Puis ça va être aussi pire que la solution, la situation qu'on cherche à éviter. Alors, à mon avis, ben... Soyons... Bon, peut-être... Est-ce que vous êtes optimiste?
J'essaye de le rester.
Bon.
Quitte à vivre une transition qui ne sera pas facile.
Vous savez, il y a un truc que vos auditeurs ne pourront pas vous dire.
Mais tu es condamné à mourir? Voyons donc.
Ça va prendre des centaines d'années, là, mais je veux dire, on est condamné à perdre le niveau de vie qu'on a.
Accepter la décroissance économique.
Oui, c'est ça.
OK. On aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Hein, si on n'est pas tous morts avant. Hein? Luc.
Ouais. Profitons de la vie.
Luc Ferrandez, maire démissionnaire, donc, du plateau Mont-Royal. Bonne chance pour la suite des choses.
Merci, M. Raymond.